Paso Doble.
Paso Doble.
Le grand entretien culture des petits matins. Mercredi, cinéma.
Bonjour Bertrand Bonello.
Bonjour.
Nocturama, votre dernier film qui sort aujourd'hui, et avec cette sortie, on n'est pas seulement dans la séquence La Rentrée du cinéma, mais aussi dans la séquence La Rentrée des polémiques. C'est un film qui va sans doute provoquer des polémiques. Alors pour commencer, je vais vous demander de le résumer vous-même, Bertrand Bonello.
Alors si je résume le film, ça va être assez simple parce que le film est fait comme une sorte de geste, on va dire. Donc on va assister on va voir une dizaine de jeunes gens entre 18 et 22 ans déambuler dans la ville avec un but, et on va s'apercevoir que ce but, c'est faire sauter en simultané quelques lieux symboliques de Paris. Et après, ces jeunes gens vont se réfugier toute une nuit dans un grand magasin.
Donc c'est un film sur le terrorisme moderne, actuel.
C'est délicat d'utiliser terrorisme moderne, parce que tout d'un coup, c'est vrai que Daesh a phagocyté totalement en fait, cette notion-là. Donc j'ai plus envie de dire que c'est un film sur un geste d'idée de refus d'une jeunesse un petit peu assommée et désemparée.
Oui, mais la méthode que vont employer ces jeunes renvoie effectivement des attentats simultanés qui ciblent le ministère de l'Intérieur, qui ciblent des lieux donc symboliques, une grande multinationale du CAC 40, et puis surtout la statue de Jeanne d'Arc, avec Jeanne d'Arc qui brûle, c'est Paris qui brûle aussi.
Oui, et Paris, une ville qui n'a jamais été vraiment touchée, même pendant la guerre, c'est vraiment un geste fort. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot d'insurrection à la limite que celui de terrorisme, parce que ça me semble quelque chose qui a traversé les âges. Et ce geste, en effet, il est violent, mais il n'est pas volontairement meurtrier, par exemple, ce qui fait aussi une différence avec le terrorisme qu'on vit aujourd'hui. Il s'attaque à des lieux et à des symboles forts, mais qui pour cette jeunesse-là peuvent représenter l'oppression, peuvent représenter l'étouffement. Voilà.
S'il fallait parler de ces jeunes qui vont se rencontrer, vous vous arrangez dans ce film pour qu'il n'y ait pas une seule cause politique à l'origine de leur envie d'en découdre, à l'origine de cette envie de commettre des attentats.
Mais simplement parce que le film démarre le jour J, en fait. Donc on imagine bien qu'avant que le film démarre, ils se sont rencontrés. Le film montre d'ailleurs un petit peu par des flashbacks comment ils se rencontrent. Évidemment qu'ils ont parlé. Ce sont des jeunes qui viennent d'univers assez différents. Donc ils n'ont peut-être pas les mêmes raisons, mais ils peuvent tout à fait avoir la même rage, en fait. Donc la cause politique, pour eux, elle existe. Simplement, pour moi, elle est hors champ dans le film, mais parce qu'il ne m'a pas semblé du tout nécessaire de l'expliquer, tellement elle me semble assez évidente.
Justement, elle n'est pas très évidente parce qu'il y a un peu de tout dans cette bande de jeunes. C'est-à-dire, on voit aussi bien que des jeunes gens plutôt bien éduqués, issus de familles bourgeoises, qui ont fait des grandes écoles, que des gens qui viennent de banlieues et qu'on pourrait considérer comme des jeunes Français de quartiers sensibles. Il y a les deux.
Oui, mais c'est ça qui m'intéressait, c'était pas de ne pas stigmatiser une chose plutôt qu'une autre et de montrer un sentiment de rage beaucoup plus diffus, beaucoup plus large, auquel personnellement je peux croire, oui. Ce serait trop simple de pointer une seule chose, de la rationaliser, de l'expliquer et de la canaliser quelque part. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de sentiments diffus. Et c'est comme ça que j'ai conçu un petit peu mon groupe. Mais c'était un postulat pour moi très très important au départ du film. Ce groupe hétérogène qu'on peut considérer comme étant une utopie de ma part, parce que c'est vrai que c'est des... une jeunesse que on a plutôt tendance à avoir envie de séparer aujourd'hui que rassembler. Mais voilà, c'est une espèce de postulat utopique dans le début du film qui me permet, pour moi, de vraiment d'affirmer ce propos de cette rage diffuse et beaucoup plus ample que de la cibler sur une seule chose, quoi.
Alors, ce qui est troublant, c'est que ça parle d'une actualité avec un autre point de vue. Très souvent, quand Paris ou d'autres villes occidentales sont confrontées à ce genre d'action terroriste, on voit beaucoup plus les officiels, on voit beaucoup plus les forces de l'ordre, et on ne voit pas les terroristes. Vous optez pour exactement le contraire, c'est-à-dire vous allez nous raconter, vous allez nous faire vivre cette journée avec ces jeunes qui vont commettre des actes de terroristes, alors que tout le reste de la société, les forces de l'ordre, pour commencer, on ne les voit jamais. Ils sont cachés, ils ont leur tenue, on ne les voit même pas.
Alors ça, c'était une des autres choses qui était primordiale pour moi, c'était prendre ce groupe de jeunes ou de gamins, enfin, et surtout ne pas les lâcher, ne pas faire de montage parallèle, etc. Rester avec eux, avec ceux qui savent, ceux qui font, ceux qui ne savent pas. À un moment, ils vont s'enfermer dans un grand magasin. Ils ont jeté leur téléphone portable, on n'entend rien parce que c'est insonorisé. Donc voilà, il se passe quelque chose hors champ qu'ils ne connaissent pas, et nous on est avec eux, et c'était vraiment important pour moi de jamais, jamais, jamais les lâcher. Quoi. Oui.
Mais on pourrait dire que vous avez de la sympathie, beaucoup d'empathie pour eux.
En tout cas, sans vouloir dire que je les excuse, en tout cas je les comprends. Et c'est vrai que le temps passé avec des gens... Et puis il y a quelque chose aussi, c'est leur âge par exemple. Je ne me rendais pas compte quand j'écrivais le scénario que je marquais David 20 ans. Et ben, quand on a quelqu'un de 20 ans, en effet, c'est quasiment un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé au montage et qui donne la sympathie, le mot est grand, mais enfin en tout cas une empathie, oui.
Tu crois qu'on va se faire choper ?
C'est impossible.
Alors, Bertrand Bonello, justement, dans Nocturama, vous parlez d'empathie pour ces personnages, mais c'est quand même ancré dans le réel, hein. C'est dans la France d'aujourd'hui, c'est dans la France où le Premier ministre s'appelle Manuel Valls, et c'est très étrange et très troublant de voir votre film, parce qu'on a l'impression que ça répond un peu à cette fameuse déclaration de Manuel Valls, quand il disait « commencer à essayer d'expliquer les causes de terrorisme, c'est déjà excuser les terroristes ». Vous faites exactement le contraire, hein.
Je sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je tenais à une forme de mélange entre de l'ultra-réalisme et de l'abstraction aussi. C'est que le film devient quelque part, il y a une forme de poésie qui se met en place et d'abstraction du fait peut-être du manque, enfin de l'absence de discours. Et quand je parle d'ultra-terrorisme, ultra-réalisme, c'était vraiment de l'ancrer en effet dans un Paris très contemporain avec des références en effet au Premier ministre, des banques qu'on retrouve, etc. Le projet du film, c'était de trouver le curseur le plus parfait entre ce réalisme et cette abstraction. Oui.
Ça va être très difficile de ne pas faire une lecture politique de Nocturama.
Certainement. Après, c'est pas à moi de la faire. Moi, je suis là pour... j'ai un ressenti très fort, très puissant, il y a quelques années, qui donne lieu à ce scénario. Je fais le film en le tirant le plus possible vers le cinéma, vers la fiction. Après, que les gens s'en emparent pour en parler et pour faire leur lecture politique, très bien, mais je ne pense pas que ce soit à moi de le faire. Si on commence un projet avec une lecture politique, le film va forcément devenir programmatique, et c'est ce que je ne voulais pas. Je ne peux pas utiliser le meilleur mot que ressenti. J'ai un ressenti très fort que j'essaye de immédiatement transformer en fiction avec des personnages et une mise en scène. Mais je ne veux pas, moi, par-dessus, arriver avec un discours. Le film, pour moi, se suffit à lui-même.
Alors, c'est quoi ce ressenti ? D'où est partie cette envie de faire ce film, Bertrand Bonello ?
Le ressenti, c'est vraiment que, où qu'on aille, qu'on lise le journal, qu'on marche dans la rue, c'est un sentiment de cocotte minute, quelque chose qui boue et qui va exploser, ou qui devrait exploser, et qu'on retient. Et voilà, moi, j'ai mis en scène l'explosion, en tout cas, de quelques personnages.
Oui, mais la France et Paris très particulièrement ont été touchés l'année dernière par deux actes de cette ampleur-là, de terrorisme, c'est-à-dire les attentats contre Charlie et puis les attentats du vendredi 13 novembre. Comment vous avez réagi à ces deux attentats alors que vous étiez en train de préparer le film ?
Évidemment, bon, d'abord on réagit en tant que citoyen, hein, c'est-à-dire on est très très... sonné, blessé, meurtri. Après, par rapport au film, je vois très bien à quel endroit se situe mon film et à quel endroit se situe cette barbarie. Et moi, je pense que mon travail, c'est d'affirmer d'autant plus à ce moment-là mon film, la fiction, et que surtout l'actualité ne pénètre pas le film en réaction immédiate. Je pense que c'était important pour moi de ne pas changer, de tenir ma ligne et de rester à mon endroit, qui est celui d'un réalisateur.
Mais le titre du film a changé. Avant, ça devait s'appeler « Paris est une fête ».
Oui, ça, en revanche, c'est vrai que quand le livre d'Hemingway est devenu une sorte de symbole post-13 novembre, ça devenait très très délicat de garder le même titre. Mais parce que je ne voulais pas qu'on imagine que je m'étais approprié ce titre. Et puis voilà, c'était pour marquer. Il fallait changer de titre, oui. Et d'ailleurs, le nouveau titre, Nocturama, renvoie encore plus à une espèce de notion un peu rêvée ou cauchemardesque. Et ça éloigne un petit peu d'une sorte de réalisme.
Après les attentats du 13 novembre, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a même eu une polémique entre deux grands chercheurs, Olivier Roy et Gilles Kepel. Vous avez sans doute suivi cette polémique. Pour aller très vite, Olivier Roy disait que c'était l'islamisation de la radicalité, du nihilisme. Et Gilles Kepel était tout à fait contre, en disant que non, la base de ce terrorisme nouveau est à rechercher du côté du salafisme, donc de la religion. Comment vous situez par rapport à ces deux points de vue?
Oui, alors pour moi, mon film, je ne le situe pas déjà là, puisque ça n'a rien à voir avec l'État islamique ou Daesh. Je ne suis pas un spécialiste ni un politologue. Si vous me demandez mon avis sur les deux analyses, en effet, je me sentais plus en accord avec Olivier Roy, mais sans avoir non plus les connaissances de Gilles Kepel.
Mais c'est-à-dire, comment vous voyez ce nihilisme? Comment vous l'avez ressenti d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce film, Bertrand Bonello?
Pousser, c'est vraiment comme je vous disais, c'était ce ressenti que j'avais et cette envie d'en faire, de le transformer immédiatement en fiction, voire en film d'action quelque part, pour justement le dégager du discours et être uniquement dans le sentiment. Après, moi, il y a des livres qui m'ont accompagné pendant l'écriture. Par exemple, pour sortir un petit peu de ce siècle, le livre de la Boétie, Discours de servitude volontaire, qui est pour moi un des plus grands livres politiques français, écrit au XVIe par un gamin de 20 ans, et qui est un livre aussi, une sorte de je vais pas dire d'appel à l'insurrection, mais quasiment. Voilà, je me suis plus mis de ce côté-là que du côté d'une réflexion nourrie par Olivier Roy ou Kepel, par exemple.
Les premières réactions au film ont été plutôt rudes pour vous. Je suppose que le fait que le film n'ait pas été retenu à Cannes, ni dans la sélection officielle, ni par la quinzaine des réalisateurs, a dû vous troubler. Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Comment vous avez réagi?
Bon, évidemment, il y a une forme de déception, mais qui disparaît assez vite. Après, on sait que le film va avoir une vie quand même. Je me dis qu'en effet, c'est peut-être pas plus mal que le film n'ait pas été à Cannes, parce que Cannes est un lieu très très hystérique, où il faut avoir une analyse extrêmement rapide, tout est très exagéré, et que je pense que c'est un film sur lequel les journalistes ont peut-être besoin de prendre ne serait-ce que 24 heures ou 48 heures pour écrire, pour réfléchir, et que ce temps-là, on l'a pas à Cannes. Le refus, après, les raisons leur appartiennent, hein. Mais oui, j'accompagne le film, mais comme j'accompagne les autres, je sens que sur celui-ci, il faut peut-être accorder un petit peu plus de temps. Ouais.
Pour parler de la réalisation de ce film, comment vous avez choisi les lieux? Pourquoi ce magasin? Pourquoi votre cinéma revient toujours vers un huis clos? L'enfermement, pour vous, ça représente quelque chose de très important, Bertrand Bonello?
En tout cas, je trouve que cinématographiquement, c'est assez magique, parce qu'on recrée un monde à l'intérieur du monde, et ce monde n'appartient finalement qu'au film, pendant le temps du film. Dans le cas d'un grand magasin, c'est un lieu qui m'a toujours fasciné, c'est la recréation du monde parfait tel qu'on voudrait nous le vendre. En effet, il y a absolument tout. Vous pouvez manger, dormir, regarder la télévision, vous habiller. C'est donc une idée du monde parfait que nous propose le monde capitaliste d'aujourd'hui. Et ce monde-là s'inscrit dans un monde qui serait imparfait. Voilà, donc j'aimais bien ce lieu pour ça. Et puis c'est un gigantesque terrain de jeu pour un cinéaste.
Bertrand Bonello, parlons maintenant de la musique de Nocturama. Comme d'habitude, vous avez composé la musique du film et vous avez aussi choisi les morceaux.
Oui, c'est quelque chose que je fais très tôt pendant l'écriture du scénario. Dans le script, tout est noté, les morceaux qui sont diffusés sont notés. Et c'est pendant que j'écris, je commence à trouver les textures et des bouts de composition. Je ne vais pas jusqu'au bout, mais enfin, j'avance quand même très très fortement sur la musique originale. Ce qui fait que quand j'arrive sur le tournage, j'ai à peu près toute la bande-son que je peux faire écouter aux acteurs, aux techniciens. Et puis quand j'arrive en montage aussi, en effet, j'ai tout. C'est-à-dire que ça fait partie pour moi du matériel de construction et de narration. C'est pas juste quelque chose qui va illustrer les images pendant le montage.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case.
Voilà, par exemple, cette musique-là, qui joue un rôle très important dans le film, parce qu'elle va être reprise par un des protagonistes.
Alors, My Way, c'est sûr que bon, j'avais envie à un moment j'avais cette image d'une descente d'escalier comme ça, comme une espèce de fête finale, puisque je me suis dit, le grand magasin, c'est le lieu où ils vont tous autoriser. Ça me semblait un peu évident de prendre une version punk. Il y en a déjà eu, hein, Sid Vicious, etc. Et j'aimais bien ce côté Las Vegas et la version de Shirley Bassey, encore plus que celle de Sinatra, de par l'arrangement, me provoquait cette sensation.
I planned each target course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
Nocturama sort aujourd'hui au cinéma, mais vous avez réalisé un autre film, plus court, de 25 minutes, Sarah Winchester, Opéra Fantôme. Et là, vous racontez donc l'histoire de Sarah Winchester, donc la veuve de celui qui a inventé la carabine, qui a fait tant de morts depuis la guerre de sécession. Pourquoi cette femme ?
En fait, c'est un personnage qui me fascine depuis 10 ou 15 ans, sur lequel j'avais pensé à un moment faire une fiction classique. Et quand l'opéra m'a proposé de cette carte blanche, j'ai eu envie de faire une sorte d'opéra fantôme, et je me suis dit que c'était un personnage parfait pour un opéra fantôme et pour le utiliser par exemple les chœurs pour donner la voix des morts, puisque cette femme, après avoir hérité de toute la fortune Winchester, s'est dit qu'elle devait accueillir tous les morts pour avoir la paix. Donc elle va construire pendant toute sa vie une maison pour accueillir tous les fantômes tués par des Winchester, et elle construira jusqu'à sa mort à l'âge de 82 ans.
C'est un film qu'on va pouvoir voir à partir du mois prochain en passant par la plateforme de l'Opéra, c'est ça ?
Voilà, la plateforme de la troisième scène qui accueille pas mal de projets, pas mal de cartes blanches.
Et c'est une très bonne surprise parce que pour raconter l'histoire de Sarah Winchester, vous avez utilisé à peu près tous les moyens de la fiction. L'écrit, qu'on voit d'ailleurs, le récit donc, la musique, la danse et le cinéma, c'est vous le cinéma. Le film dure 25 minutes et c'est la répétition donc d'un spectacle qui n'aura jamais lieu, d'où Opéra Fantôme autour de Sarah Winchester, entre le metteur en scène et la danseuse, entre Reda Kateb et Juliette Vial. Et c'est incroyable parce que le metteur en scène, celui qui dirige cet opéra, c'est celui aussi qui a le pouvoir de mettre la musique.
Oui, en fait, c'est-à-dire, je me suis dit, l'opéra, c'est un mélange de plein d'arts. Donc d'un côté, je vais mettre le musicien, metteur en scène ou compositeur ou chef d'orchestre. De l'autre côté, la danseuse qui est en fait Juliette Vial, c'est la petite fille. La danseuse s'appelle Marie-Agnès Gillot. Et puis les chœurs, les 90 choristes dans un autre lieu, leur pièce de répétition. Et c'est le montage qui va rassembler tout ça et fabriquer une bribe d'opéra.
Merci Bertrand Bonello.
Merci à vous.
Si vous voulez réécouter cette interview de Bertrand Bonello, une seule adresse, la même, franceculture.fr, tout est à votre disposition à la page Pas au Double. Bertrand Bonello sera par ailleurs l'invité de la grande table tout à l'heure à midi chez Olivia Gisbert. Demain, je serai avec François Valéjou. Ça sera un polar avec beaucoup de plats bien mijotés.